Vous écoutez RTL.
RTL, première radio de France.
If you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself.
Jusqu'à 22h, Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Le Canada, ce sont des chanteurs qu'on aime, Garou, Céline Dion, Rock Voisine ou encore Justin Bieber. Et il y en a plein d'autres. Le Canada qui va fêter ses 150 ans. On raconte la naissance de cet adolescent. Bah oui, 150 ans, c'est jeune pour un pays, pour une confédération. On vous raconte ça avec Courrier International et son directeur de la rédaction, Éric Scholl. Alors que s'est-il passé? On voudrait mettre un terme à ce suspense insupportable. Le 1er juillet 1860. C'était donc il y a 150 ans.
Ben c'est la naissance du Canada. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il y a trois colonies. Le Canada uni, la province du Canada, le nouveau Brunswick et la Nouvelle-Écosse qui se réunissent. Alors, poussé par celui qui va devenir le futur Premier ministre, John Alexander... ça y est, j'ai oublié son nom.
MacDonald.
Il vient de Glasgow, c'est un Écossais. Il a quitté l'Écosse à l'âge de 5 ans. Il a rejoint une partie de sa famille qui était... C'est intéressant parce que cet homme-là, il vient d'une famille écossaise et comme beaucoup, ils ont immigré au Canada. Et lui, il devient avocat, il rentre en politique et tout d'un coup, il a ce projet d'unir et de créer... il ne voulait pas créer une confédération, mais finalement, il était un peu obligé. C'est-à-dire que ce 1er juillet 1867, eh bien, les trois provinces s'unissent dans une confédération. C'est la naissance du Canada. Personne ne parie sur l'avenir de ce pays. Un mois plus tard, il y a des élections. Eh bien, c'est quasiment comme notre Macron national. Il remporte les élections. C'est une grande surprise.
Pourquoi on ne parie pas sur ce pays? Parce qu'on se dit que ça ne va pas marcher, cet assemblage de territoires.
On n'y croit pas trop. D'une part, parce que les provinces existent, les colonies existent depuis longtemps. Il y a déjà ces séparations entre les colonies françaises, enfin celles qui étaient françaises, en tout cas la partie francophone, et celles qui sont sous domination fortement britannique. Et surtout, à ce moment-là, tout le monde se dit que tout ça va être aspiré par les États-Unis. Et ça, c'est quelque chose qui est resté pendant très longtemps. En tout cas, à ce moment-là, on n'y croit pas trop. Eh bien, on a tort. D'une part...
C'est la naissance du multiculturalisme, en fait, déjà.
À ce moment-là, et c'est dans les gènes de cette confédération, de ce pays qui naît là en 1867. Effectivement, ce multiculturalisme, qui est quand même un truc, une idée très particulière, très critiquée aujourd'hui, souvent en Europe ou ailleurs. Et en réalité, s'il y a un pays qui représente finalement le multiculturalisme, c'est le Canada. C'est pas le seul. On peut penser par exemple au Brésil, qui est une société multiculturelle. Mais le Canada, c'est dans cette constitution de 1867. Mmh. Parce que ce texte de constitution, il va durer, il est toujours en vigueur aujourd'hui.
Alors on va raconter l'histoire du pays, les grandes étapes en tout cas. Mais si on essaie un tout petit peu de voir comment ça se passe... aujourd'hui, est-ce que c'est toujours un pays d'accueil, par exemple pour les Français? Est-ce qu'il y a toujours autant de Français qui vont au Canada, qui cherchent à s'y installer, à y faire des études?
Beaucoup, bien sûr, parce qu'il y a une tradition d'accueil qui existe pour tout l'ensemble des pays, mais en particulier les Français sont attirés, parce qu'il y a effectivement une partie du Canada francophone. Mmh. C'est pas d'ailleurs celle, forcément, où c'est pas cette partie-là où on va trouver le plus vite du travail. Il y a des parties qui sont du pays qui sont plus dynamiques. Mais en tout cas, les Français sont attirés. Il y a à peu près entre 5000 et 7000 Français qui chaque année deviennent Canadiens, s'installent au Canada.
Et des immigrants en général
c'est beaucoup plus important, c'est une tradition, il y en a 260 000 par an. Entre 260 000 et 270 000, et ça va en augmentant, et ce chiffre-là, il existe depuis 20 ans ou 30 ans, il y a à peu près entre 250 000 et 260 000, 70 000 immigrants qui arrivent au Canada chaque année, qui viennent de tous les pays du monde.
Mais vraiment tous ?
On a l'Iran, on a évidemment la Chine, très important la Chine. On a aujourd'hui aussi un petit peu de Syrie, pas beaucoup, mais un petit peu de Syrie. On a les Philippines, un pays très important. On a les États-Unis, on a la Grande-Bretagne, bien sûr.
Le Canada qui accueille plus de 200 ethnies, c'est ce que vous dites.
Oui, c'est ça, ce qu'on appelle le multiculturalisme. 200 ethnies, ça veut dire qu'on a une sorte de grand, je ne sais pas si on peut appeler ça le melting pot, mais un grand mélange. C'est le deuxième pays d'accueil après les États-Unis au monde. Donc c'est un pays ouvert qui a bâti sa une partie de son identité, ou de ses identités, je dirais plutôt au pluriel, sur cette tradition notamment d'accueil.
Chez nous, il y a des débats politiques, il y a l'utilisation de cette question des migrants comme un repoussoir, comme un thème anxiogène. Là-bas, c'est vécu comme quoi ? Comme un atout pour le pays ?
Il faut pas être naïf. Il y a eu des attentats au Canada, donc il y a eu aussi un débat au Canada, mais si vous voulez, on est dans une tradition d'accueil. Justin Trudeau, qui est l'actuel Premier ministre, s'inscrit parfaitement dans cette tradition. Donc il a l'envie d'essayer d'ouvrir les portes et d'accueillir.
Encore plus,
sur le chiffre global, c'est-à-dire, j'ai dit qu'on était à 250 000, 270 000, lui, il veut essayer de le faire passer à 300 000. Mais c'est normal, c'est un pays qui est jeune, et ce qu'il voit, et ce qu'on n'a sans doute pas vu, nous, dans nos pays européens, c'est les Canada l'a vu sans doute plus fortement que les autres, c'est la démographie, des démographies dans nos vieux pays qui sont déclinantes, et donc le Canada a compris qu'il pouvait compter sur l'immigration, et bien finalement, pour rajeunir, et pour développer ces pays. Quand vous regardez, le Canada aujourd'hui, c'est 35 millions d'habitants. Eh bien, en 2060, ça sera 50 millions d'habitants. Vous prenez l'Italie. L'Italie est aujourd'hui à 60 millions d'habitants. Et en 2060, ça sera 50 millions d'habitants. On voit deux pays qui ont de démographie à peu près comparable, sauf qu'il y en a un qui est en très forte vitalité et augmentation, et l'autre eh bien, qui subit finalement, et qui est en fermant ses portes, qui subit le sort des vieux pays.
Alors vous disiez il y a quelques instants, Eric Scholl, que le Canada, c'est le deuxième pays qui accueille le plus d'immigrants. Donc devant, alors non, on va dire c'est après les États-Unis, et pourtant on peut lire à la une de The Economist la liberté des ménages au nord, c'est-à-dire au Canada. Pourquoi le Canada incarne la liberté? La réponse dans un instant, on est curieux.
Ma cabane au Canada.
Vous écoutez RTL.
On est tous écoliers, il faut tourner des pages, réapprendre à voler.
La curiosité est un vilain défaut.
Jusqu'à 22h. Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
On célèbre aujourd'hui le 150e anniversaire de la naissance du Canada, et on en profite pour réécouter des chanteurs canadiens, Daniel Lavoie, Linda Lemay, Leonard Cohen, et on en profite aussi et surtout pour vous raconter l'histoire de ce pays avec nos partenaires de Courrier International et son directeur de la rédaction, Eric Scholl. Donc, Sidonie disait tout à l'heure que The Economist avait titré « La liberté des ménages au Nord ». Pourquoi le Canada devient le pays symbole de la liberté ?
Parce qu'au sud, en ce moment, c'est un peu grippé.
Ah, vous voulez parler de l'homme à la mèche blonde ?
Exactement. Donald Trump, effectivement, a inquiété, fait peur. Et donc, il y a eu des envies de partir vers le nord assez fortes, alors qu'ils ne sont pas toutes matérialisées. Mais au Canada, on essaye de les attirer. Et vous savez, en ce moment, il y a une pièce de théâtre qui fait un carton à Broadway, et d'ailleurs un peu partout aux États-Unis, pas seulement à Broadway. Elle s'appelle Come From Away, venir d'ailleurs. Et cette pièce de théâtre a été écrite par c'est une comédie musicale qui a été écrite par deux auteurs de Toronto, et qui met en scène en fait ce qui s'est passé dans un petit village de Terre-Neuve juste après le 11 septembre 2001. Eh bien, il y a eu dans ce village, on a accueilli des avions des États-Unis qui n'avaient plus le droit de survoler l'espace aérien américain était bloqué, et ces avions sont venus atterrir dans ce petit village, à côté de ce petit village. La population les a accueillis, les a nourris, les allogés, il y a des amitiés qui sont créées, des couples même qui sont fondés. Mmh. Et cette pièce de théâtre raconte ça. C'est une pièce qui est sur les valeurs de tolérance, d'accueil et de solidarité du Canada. Et qu'est-ce qu'a fait notre Premier ministre canadien, Justin Trudeau, lorsqu'il y a eu la première à New York, à Broadway? Il a emmené la fille de Donald Trump, Ivanka, voir cette pièce de théâtre. Et au fond, c'est ça, c'est à la fois ses valeurs, mais aussi la mise en avant de ses valeurs, de promouvoir ses valeurs auprès du public américain. Qui répond plutôt bien d'ailleurs.
Eric Scholl, on dit que le Canada c'est un pays jeune, qu'on fête ses 150 ans parce qu'on fête le 1er juillet 1867, c'est-à-dire la réunion de trois territoires, la Confédération canadienne. Mais et le pays n'est pas né évidemment il y a 150 ans, ça remonte à quand vraiment sa lointaine histoire ?
On remonte vraiment très loin.
Allez, on y va.
Allez,
15 000 ans. Et 15 000 ans, à mon avis, on peut encore aller plus loin. Mais 15 000 ans, c'est à peu près là dont on date les premières traces archéologiques des peuples autochtones au Canada. Et en fait, ces peuples qui sont arrivés, ils sont arrivés de quelque part. Alors, on a réussi à peu près à voir d'où ils venaient. On imagine, c'est un des scénarios. Ils viendraient de Sibérie. Ils sont passés par l'isthme, le détroit de Bering, où ils sont restés d'ailleurs un petit moment avant de venir s'installer au Canada. Donc, vous voyez, l'histoire est beaucoup plus ancienne. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on retrouve aujourd'hui dans ce débat, parce que les 150 ans, tout le monde au Canada n'achète pas cette idée que le pays
qui
a 150 ans.
Qui n'aime pas cette idée ?
Les peuples autochtones, mais là, c'est une longue histoire entre les peuples autochtones et le pouvoir canadien. C'est une histoire qui a été faite de beaucoup d'antagonisme, beaucoup aussi de refus de considérer ces peuples autochtones qui représentent 4-5% de la population canadienne aujourd'hui. On parle d'un million de personnes.
Il faut les protéger, évidemment.
Ils ont été très longtemps. Ils ont été très longtemps victimes de ségrégation. Aujourd'hui, le Canada, en tout cas le Canada de Justin Trudeau, est plutôt dans une tentative de les aider, de les réintégrer. Il y a beaucoup de problèmes qui se posent, d'intégration, des problèmes sociaux. Et donc, c'est toute la politique aujourd'hui, à la fois de réconciliation et aussi d'intégration, c'est un enjeu majeur pour le Canada.
Le Canada et le Québec particulièrement a créé des liens avec la France depuis très très longtemps. On fête aussi un anniversaire à Montréal, c'est ça
lequel? Les 750 ans.
Les 750 ans de la ville de Montréal. Oui. D'accord.
Mais en réalité, si on regarde la date importante pour les Français, c'est 1534.
Alors
c'est Jacques Cartier,
Jacques
Cartier qui part de Saint-Malo. Alors, il part envoyé par le roi, François Ier.
C'est un navigateur, évidemment.
C'est un navigateur, explorateur. Le roi lui finance ses expéditions. Ce qu'il veut, c'est pas forcément aller juste au Canada. Il souhaite aller au Canada, mais pour aller plus loin en Asie, pour aller prendre les richesses de l'Asie. Et en réalité, il s'arrête au Canada, qui ne s'appelle pas encore Canada. Il arrive du côté de Terre-Neuve, et puis il descend, il remonte le Saint-Laurent, et il plante sa croix. Et c'est la naissance, j'allais dire du Québec, mais de ce qu'on appelle la Nouvelle-France, parce que derrière, il va y avoir non seulement toute cette partie du Québec, l'Acadie et puis la Louisiane, tout ça va pendant un siècle et demi va être une sorte de vice-royauté de la France qui va s'appeler la Nouvelle-France.
Est-ce que c'est Jacques Cartier, ce navigateur français, qui donne le nom de Canada, de pays de Canada à cette terre?
Oui, et c'est pas un nom qu'il invente parce qu'il a été le prendre chez les peuples amérindiens et en particulier chez les Iroquois. Et Canada, ça signifie, c'est une des significations, puisqu'il va y avoir plusieurs, ça veut dire village.
Ah, c'est génial comme origine.
Alors, nouvelle étape dans la construction du Canada. On avance rapidement dans le temps. On est en 1763. Pourquoi cette date est importante ?
Ah, c'est pas une bonne date pour les Français. Mais effectivement, là, c'est renversement d'alliance, si je puis dire. Mais parce que je viens de vous parler de l'arrivée des Français. Mais quelques décennies plus tard, les Britanniques sont arrivés. Les colonies ont commencé à installer des colonies. Et en 1763, cette fois-ci, c'est les Britanniques prennent le pouvoir. Et quand ils prennent le pouvoir, au fond, c'est la fin de la guerre des 7 ans en France et la France finalement renonce à toutes ses colonies, c'est la fin aussi de la Nouvelle-France et c'est quasiment le début du Canada en fait en quelque sorte, parce que ça va être le Canada uni, c'est-à-dire que les Britanniques vont récupérer là où ils étaient déjà installés, ils vont récupérer le Québec, ils vont assembler tout ça dans ce qu'on va appeler le Canada uni un peu plus tard, il y aura une loi je crois en 1791 et ils sont partis pour constituer ce Canada anglophone.
Et entre-temps, pourtant, le Canada avait encore été un peu divisé. Il y avait le Bas-Canada et le Haut-Canada.
Oui, c'est ces deux provinces. Le Bas-Canada, on est sur le Québec. Et donc, c'est d'abord, on les réunit, on les resépare à un autre moment, mais tout ça reste sous domination britannique. C'est ça qui est le plus important. Jusqu'à la fameuse date de 1867. Mais même en 1867, c'est-à-dire la naissance du Canada, le Royaume-Uni n'est pas très loin, parce que qui décide de cette naissance, c'est quand même une loi britannique en 1867. Et il faudra attendre beaucoup plus tard pour que tout le cordon ombilical soit rompu, et ça sera en 1982. C'est-à-dire il y a finalement 35 ans.
Mais ça veut dire que l'influence, la culture française, la langue française sont réprimées dans ces années-là de domination anglaise, ou il y a quand même toujours un espace français qui peut
survivre? Non, il y a un espace français, mais clairement, les Français ont fait un peu quand même les frais de la création du Canada. Cet espace va demeurer, mais les Français, mais la partie, en tout cas le Québec francophone, jusqu'à encore aujourd'hui, va aspirer en permanence à une davantage de reconnaissance, davantage de même un mouvement indépendantiste, un nationaliste québécois qui va exister pendant très longtemps, en opposition notamment à ce qu'on appelait à l'époque les Canadiens, les Anglais canadiens.
Alors on parle souvent de Montréal, mais on va vous faire découvrir une autre grande ville canadienne, c'est Vancouver dans un instant. C'est aussi une ville fascinante, ce sera dans 3 minutes sur RTL.
Vous écoutez RTL.
RTL, première radio de France.
Pour pouvoir faire mon numéro.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
Le vrai rododo qui nous coupait les lèvres et nous niquait les dents. Et les Mistral gagnants.
Jusqu'à 22h, Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Cœur de pirate, Bryan Adams, Claude Dubois, voici quelques talents canadiens. Joyeux anniversaire, le Canada, le 1er juillet, il aura 150 ans. C'est son histoire qu'on raconte dans La Curiosité avec nos confrères de Courrier International qui consacre à ce pays. Son dossier principal, c'est en partenariat avec RTL. Nous sommes avec le directeur de la rédaction, Éric Scholl. Et vous nous avez... parler là entre deux chansons, enfin plutôt entre deux morceaux d'interview, d'un magazine qui s'appelle le Walrus, fête à sa manière les 150 ans du Canada en listant les 150 objets et inventions du territoire. Vous nous en livrez quelques-uns ?
Ah oui, il y a des choses évidemment qui viennent tout de suite à l'esprit, mais la feuille d'érable. Et vous savez, la feuille d'érable, évidemment, on l'associe tout de suite au Canada. Elle figure sur le drapeau du Canada. Ouais. Mais en fait, ça fait relativement peu de temps, ça fait depuis 1965. Alors après, il y a plein de choses qui viennent. On parlait des peuples, des nations premières. Alors si par exemple, eh bien, c'est les totems, les matotémiques qui sont tout de suite associés au Canada. Et puis la tuque. Vous voyez ce que c'est que la tuque ?
Non.
C'est ce bonnet que portent les Québécois, parfois avec un petit pompon. Ben voilà, ça c'est un objet canadien important. Et vous savez, nos amis canadiens, ils ont été aussi, ils sont des grands inventeurs.
Qu'est-ce qu'ils ont inventé alors ?
Par exemple, le téléphone. Alors, c'est très discuté, mais enfin, Graham Bell, c'est lui qui aurait donc inventé le téléphone en 1876 dans l'Ontario. Un cinéma, le format du cinéma ou de IMAX.
Ouais,
le IMAX, hein, d'accord.
En 1971 à Toronto, ou alors. Si vous faites un peu de... Je suis sûr que vous êtes un peu des informaticiens. Le programme Java, ça vous
bien
dit quelque
sûr,
chose
bah oui.
Inventé au Canada, en 1995. Ou encore, le téléphone BlackBerry. Bon, d'accord, aujourd'hui, il a quasiment disparu.
Il est moins
à
la mode,
le téléphone BlackBerry, c'était une invention du Canada, un peu plus récente, 1999.
Si ça se trouve, ils ont même inventé les algorithmes.
Attendez,
et la blockchain des Canadiens.
Ils ont encore inventé autre chose qu'on connaît tous, absolument tous.
Oui.
C'est le logo des toilettes. Qui a été inventé à l'occasion de la grande expo de 1967, c'était déjà évidemment un anniversaire, pour au Québec, et à ce moment-là, on avait fait appel à des architectes, des designers, et c'est à ce moment-là qu'on a inventé le logo, qui est devenu un logo universel.
Mais lequel on voit publiques. Les hommes et les femmes ?
Exactement.
Ah, génial. Alors, il y a dans ce Canada, il y a
ça
la partie française.
Ça vous fait cet effet-là ?
Le
logo des toilettes.
Je trouve ça chouette, un peu de tout, un peu de téléphone, un peu de cabinet, écoutez.
Ah oui, ça d'accord, oui.
Okay. Dans ce Canada qui nous attire tant, il y a une ville alors là, qui fascine le monde entier, qui attire le monde entier, c'est Vancouver. Alors déjà, est-ce que vous pouvez nous la situer sur cet immense territoire qu'est le Canada ?
Bon, alors direction plein ouest et même sud-ouest. Et on est juste à côté du Pacifique. On est un peu au-dessus des États-Unis, mais pas si loin que ça, une cinquantaine de kilomètres de la frontière des États-Unis.
C'est la Californie du Canada ?
Si on veut, mais c'est une ville qui associe à la fois beaucoup, beaucoup de choses. C'est-à-dire que c'est vraiment une ville multiculturelle. On a à la fois de l'Asie dans cette ville, on a de l'Europe, on est juste à côté des montières, des montagnes. Donc on a aussi la nature qui est juste derrière. Donc c'est une ville qui est à la fois une vraie ville. On la surnomme la ville de verre. Pourquoi ? Parce que y a ces buildings de verre et d'acier. bouger et en même temps la nature est partout. On y circule aujourd'hui quasiment plus à vélo, à pied, par tout, plein de moyens de
locomotion. Il paraît que la moitié de la population se déplace à vélo.
Exactement, et c'est une ville qui est hyper accueillante, qui attire énormément les Asiatiques, les Européens, et donc on y vient. Il y a des talents partout, des talents qui vont dans le cinéma, qui vont dans énormément de métiers.
Attendez, il y a des talents, mais il y a aussi Hollywood. Hollywood qui vient carrément tourner, c'est ça, à Vancouver ?
Bien sûr, on y tourne des films, on y a tourné Superman, on y a tourné des Missions Impossibles, on y tourne aussi énormément de séries, même plus de séries aujourd'hui à Vancouver qu'à Hollywood. Il y a la première ville au monde aujourd'hui où on tourne, ce serait plutôt New York. Et ensuite, arrive très vite, juste derrière Vancouver, il y a Toronto aussi qui n'est pas très loin. Et on y a tourné par an, grosso modo, une quarantaine de séries qui sont en tournage à Vancouver. Des talents, une ville qui est pas très chère et c'est relativement facile quand on fait du cinéma ou du tournage de tourner en termes de d'autorisation administrative de faire des tournages dans ces villes,
plus facile qu'aux États-Unis.
Les décors naturels en tout cas sont fantastiques.
Alors vous nous décrivez une ville verte aussi, hein,
la nature
partout, pour qui la nature est présente, le développement durable, c'est ça, et notamment un projet d'immeuble assez étonnant dans cette gamme là c'est quoi? C'est un immeuble tout en bois, c'est ça?
En bois et en verre, qui serait quasiment sur le front de mer et qui serait construit par cet architecte d'origine japonaise, celui qui nous a fait en France, qu'on connaît, puisqu'il nous a fait le centre Georges Pompidou de Metz, qui est à Metz.
Ah oui, le nouveau centre Pompidou à Metz.
Donc c'est un immeuble qui sera pas si haut que ça, mais qui est assez spectaculaire, notamment par son design et par sa dimension, je dirais, de développement durable.
Mais est-ce qu'on peut dire que c'est l'une des villes les plus vertes au monde, Vancouver?
En tout cas, elle se considère comme ça. Elle s'affiche dans les classements, elle apparaît comme la deuxième, troisième, quatrième ville la plus verte du monde. Donc, elle s'inscrit dans une idée, effectivement, de projet environnemental.
Et à l'image de tout le pays, Vancouver attire de nombreux immigrants du monde entier. Et
beaucoup
surtout
de Chinois. Oui,
c'est quoi
longtemps.
L'histoire d'amour entre les deux?
Alors,
entre la Chine et
Ça commence
et
dans les
Vancouver.
Années 80. Et vous savez, il faut se rappeler, le 4 juin 1989, Tiananmen, et cette grande peur qui s'inscrit notamment dans toutes les communautés chinoises parce qu'il s'est passé à Hong Kong en particulier. C'est-à-dire qu'on a vu cette répression sur la place Tiananmen et les Hongkongais qui savaient qu'ils allaient revenir quelques années plus tard à la Chine se sont dit peut-être qu'il nous faut un passeport pour ailleurs. Certains sont partis en Australie, mais beaucoup sont partis aussi au Canada, et notamment à Vancouver, au point qu'on appelait Vancouver à l'époque la Little Hong Kong. Et donc, ils sont restés là, et puis petit à petit, il y a eu un courant d'émigration important venant, je dirais, de l'ensemble de la Chine. Et aujourd'hui encore, notamment, les grandes fortunes chinoises sont installées à Vancouver. Alors, ça a des effets positifs, ça a aussi des effets négatifs parce qu'ils investissent beaucoup dans l'immobilier et l'immobilier finit par coûter très cher aujourd'hui à Vancouver.
Donc, elle est aussi bon marché, cette ville, alors, Vancouver. Bon marché peut-être pour l'industrie hollywoodienne qui vient tourner, mais moins pour ceux qui viennent s'y installer.
Moins pour ceux qui viennent s'y installer. C'est devenu une des villes, malheureusement, les plus chères du monde, même si elle est très accueillante.
On parlait du Premier ministre Justin Trudeau.
Oui.
Est-ce que c'est un pays facile à gouverner, le Canada, parce qu'il y a quand même ces entités différentes dont on parle, et depuis la naissance du Canada, finalement, ce que vous nous décriviez tout à l'heure, il y a le côté francophone, le côté anglophone. Est-ce que c'est un pays difficile à gouverner?
C'est un pays d'abord qui est très grand. Je pense que l'idée de l'espace, il faut l'avoir toujours en tête quand on gouverne un pays. Et ces pays, chacune des provinces est déjà plus grande. Une province canadienne est plus grande que la France. Donc on imagine la taille de ce pays qui contient 10 provinces. C'est un pays effectivement qui est bâti sur le multiculturalisme et qui est effectivement un assemblage, une sorte de mosaïque. Et donc n'est pas facile à gouverner dans ce sens-là. Mais dès le départ, il y a cette idée de multiculturalisme. Il y a même une journée de multiculturalisme, c'était en début de semaine, c'était le 27 juin. Vous voyez, donc il y a cette idée du multiculturalisme et ce qui rejoint, ce qui permet non pas de créer une valeur pour le Canada, parce que c'est un pays multi-identitaire. Il s'est bâti comme ça, et c'est ce qui permet sans doute de le gouverner, sachant qu'il y a du tiraillement. Au Québec, par exemple, on accepte assez mal que le responsable du Québec soit en fait désigné par le premier ministre, le lieutenant-gouverneur du Québec, soit désigné par le Premier ministre canadien. On préférait qu'il soit désigné directement peut-être par le peuple canadien.
Alors le Canada qui est si grand, si vaste, qu'il n'a pas encore nommé tous ses lacs. toutes ces rivières et toutes ces terres.
On va trouver des noms,
c'est
nous.
Possible. Oui, on va les aider. On vous raconte pourquoi dans un bref instant. Restez sur RTL.
Vous écoutez RTL.
RTL, toujours avec vous. Jusqu'à 22h.
Passionate from miles away. Passive with the things you say.
La curiosité est un vilain défaut.
Passing up on my always. I can't blame you, no.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
No.
Paul Anka, Drake, Diane Dufresne ont fête le 150e anniversaire du Canada en musique dans la curiosité avec des chanteurs canadiens qu'on écoute depuis tout à l'heure et avec le directeur de la rédaction du magazine Courrier International
qu'on écoute aussi depuis
Eric
tout à l'heure.
Scholl, qu'on écoute aussi depuis tout à l'heure. Le Canada, terre immense, évidemment, vous nous l'avez dit, 10 provinces, chacune de ces provinces est plus grande que la France, donc c'est vraiment une façon de d'imaginer l'immensité de ce pays. Et alors du coup, dans Courrier International, on se balade, on voyage grâce à vous, c'est le principe. Vous nous emmenez notamment découvrir la province de Manitoba. Alors là aussi, on situe, puis ensuite vous nous dites la particularité de cette province.
Si vous voulez, c'est une province qui est là aussi plutôt au sud, juste à côté, jouxtant les États-Unis, les États du Minnesota.
C'est vraiment au centre du Canada,
au
non
centre,
hein
au centre,
ouais, un peu en sandwich.
Un tout petit peu plus à l'ouest, c'est au centre. C'est une très grande province, hein, ouais. Plus grande que la France en termes de superficie, mais avec une population de 1,5 million d'habitants. Donc vous imaginez, c'est une sorte de grand désert. Et alors, il y a quelque chose de très particulier dans cette province. Il y a des lacs, mais un nombre de lacs incalculable. Il y a plus de 100 000 lacs.
Et le problème, c'est qu'il faut leur trouver des noms, c'est ça ?
Eh bien, il faut leur trouver des noms, parce que...
Il y en a certains qui ont été nommés, quand même.
Sur les 100 000, il y en a 10 000 qui ont été nommés. Ça il en reste 90 000 à nommer. Et donc, on a été repéré un article dans un excellent journal de ce coin, de Winnipeg Free Press. Winnipeg, c'est la capitale de cette province, qui raconte la vie du toponymiste, qui est le garçon donc, qui est là en poste maintenant depuis plus de 20 ans, et qui trouve les noms, qui est dont la mission est de baptiser.
Attendez,
tous
c'est
ces
ça
lacs.
Son boulot à plein temps, trouver les noms. C'est
et
génial.
C'est très compliqué.
Mais c'est formidable.
Voilà, donc, il est obligé d'aller visiter chaque lieu avant de le baptiser.
Mais il faut les trouver, les lieux, parce qu'ils n'ont déjà pas de nom. Et vous savez, c'est très compliqué. Imaginez. C'est bien pour ça, d'ailleurs, qu'il faut bien nommer, il faut bien essayer de dresser des cartes précises. Quand vous avez des urgences, un service d'urgence d'hôpital qui doit envoyer une ambulance, comment fait-on
derrière le lac.
Quand je dis une ambulance,
là,
ça peut être un hydravion plutôt. Là, on se déplace beaucoup en hydravion dans ces coins. Mais comment fait-on ? Donc, il faut donner des noms, il faut arriver à situer. Et ça demande quand même beaucoup de travail, un travail d'histoire aussi important, hein, à la fois pour essayer de reprendre du langage, des langues des Amérindiens.
C'est-à-dire que ces noms ne sortent pas de nulle part, qu'ils soient acceptés par la population locale et que ce soit relié à son histoire. Donc,
si je vous dis, par exemple, le village de Portage de la Prairie, qu'est-ce que ça veut dire ? Portage, c'est les sentiers au Canada. C'est ces sentiers qui relient un lac à un autre, un cours d'eau à un lac, et c'est le moment où on doit porter le canoë, mais quasiment sur le dos, pour pouvoir aller rejoindre l'autre partie du cours d'eau et continuer son chemin. Et Portage de la Prairie, ça fait penser tout de suite à ces commerçants de fourrure qui se déplaçaient comme ça. Et vous voyez, donc il y a toute une partie très
poétique,
traditionnelle, très historique, liée aussi parfois à la langue des immigrants, et puis liée, évidemment, je le disais, aux langues des peuples amérindiens. Mais il a fallu encore trouver d'autres noms, et c'est là que ça devient plus compliqué.
Vous en avez d'autres, là, des noms inventés par... Il s'appelle Descapel, c'est ça, ce
Descapel. Non, alors ce qu'il a fait, c'est qu'ils se sont dit, on va essayer d'utiliser aussi, de rendre hommage à tous ceux qui sont morts pour le Canada, pour cette province, et notamment toutes les victimes des guerres. Alors, on a commencé avec la Deuxième Guerre mondiale. Donc, il y a eu un travail important, historique, pour repérer comment ces soldats qui sont partis se battre en Allemagne, en France, etc., eh bien, retracer leur histoire et leur donner le nom d'un lac.
Alors, vous n'avez peut-être pas la réponse, Eric Scholl, mais bon, je vous pose quand même la question. Est-ce que ce toponymiste, par exemple, il décide de ses noms, mais il les décide un peu tout seul ou c'est soumis à un vote, ça
Non, remonte... il appartient à une commission, la commission de toponymie du Canada,
chez eux aussi,
qui a été mise en place en 1897. Non, mais il a quand même beaucoup d'attitude pour monter ses dossiers. Et soyez, par exemple, il y a un lac dans cette région qui s'appelle le lac Andal. Le lac Andal, il rend hommage à un soldat qui s'appelait Ralph Andal, qui venait d'un petit hameau, qui n'était pas nommé, mais d'une région de Sainte-Vital. Et il est mort le 14 décembre 1944 en Allemagne. Et donc, notre toponymiste, il a reconstitué toute son histoire et il lui a attribué le nom d'un lac. Alors, la Seconde Guerre mondiale, c'est fait. Donc aujourd'hui, notre toponymiste retravaille sur la Première Guerre mondiale. Donc vous voyez, il y a un travail d'archives aussi important. Et puis, il va falloir quand même trouver des nouveaux noms. C'est très important.
Le lac Bonnec.
Bah oui,
on lui souffle l'idée. Hugues. Ça sonne moins bien. Pour les Amérindiens, ça peut peut-être passer.
Oui, c'est vrai. Et ce territoire, ce Canada, territoire vaste, qui va fêter ses 150 ans, et ça c'est génial, en s'offrant un tour de lui-même. Quelle expédition se prépare, en quelques mots, parce qu'on est presque à la fin de notre...
Qui est même en cours de route, c'est la croisière C3. Pourquoi C3? Parce que c'est les trois côtes du Canada. Hein, donc, on fait le grand tour du Canada par l'est, et ensuite par le nord, en passant par le détroit du nord-ouest, et ensuite en redescendant. 23 000 kilomètres, et c'est un brise-glace qui est parti, et qui emmène... Alors, les équipages changent, mais qui emmène des explorateurs, des scientifiques, des politiques. Et dedans, on parle du Canada. Il y a un salon qu'on appelle le Salon du patrimoine dans ce brise-glace où on rend hommage au peuple premier. Il y a des drones partout qui filment, qui regardent, qui racontent cette croisière. L'idée, c'est à la fois un voyage sur soi-même, sur les 150 années, ces 150 années bien plus passées, mais c'est aussi rendre hommage aussi à toute cette idée du développement durable. Et puis, c'est le vivre ensemble, ce que sait très bien faire le Canada aujourd'hui.
Pensez qu'on pourra suivre ça sur Internet ?
Avec les drones, on doit pouvoir le retrouver très très facilement sur Internet, parce que c'est filmé en permanence.
Ça donne envie. Et puis c'est une façon de se réapproprier aussi le gigantisme de ce pays.
Et voilà, et ce bateau, ce brise-glace, ils sont partis avec 2000 crosses de hockey qui vont les distribuer un petit peu partout dans le pays.
Merci beaucoup Eric Scholl. Le Canada, nouveau monde, c'est le titre du dossier de Courrier International. C'est en partenariat avec RTL, c'est à l'occasion des 150 ans du pays.
Merci beaucoup. Il y a aussi les 750 ans de Montréal.
Vous écoutez RTL.